Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 29 avril 2024. Les Togolais ont voté aujourd'hui pour élire 113 députés à l'Assemblée nationale, mais aussi pour la première fois 179 conseillers régionaux. En République démocratique du Congo, des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs de province ont eu lieu ce lundi. Au Niger, les proches du président assassiné Ibrahim Barré Maina Sara réclament justice plus de 20 ans après sa mort.
La conclusion, ma propre conclusion, il n'y a aucune volonté au niveau des hommes qui nous ont gouvernés de 25 ans aujourd'hui de vouloir faire, en tout cas manifester la vérité. Ça veut dire qu'il y a des complicités cachées.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Au Kenya, au moins 45 personnes ont péri après la rupture d'un barrage. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a émis aujourd'hui l'espoir de voir le Hamas accepter une proposition extraordinairement généreuse d'arrêter l'offensive israélienne à Gaza en échange de la libération des otages. Ne manquez pas notre page fond ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. On commence par le Burkina Faso. Les gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis se disent gravement préoccupés par les informations faisant état de massacres de civils perpétrés par les forces militaires burkinabées à la fin du mois de février. Dans un communiqué commun, Londres et Washington appellent les autorités de transition burkinabées à mener une enquête approfondie sur ces massacres et à demander des comptes aux responsables. Un récent rapport de Human Rights Watch a fait état de témoignages de première main sur l'exécution d'au moins 223 civils, dont 56 enfants dans les villages de Nondin et de Soro dans la province du Yatenga. Sur cette affaire, Ouagadougou a suspendu la diffusion de VOA et de la BBC. Les autorités burkinabées ont doublé la mise ce lundi en suspendant TV5, Deutsche Welle, Le Monde, The Guardian, APA News et l'agence Ecofin basée en Suisse et au Cameroun. Niger, États-Unis, des décisions sur les modalités de retrait des troupes américaines du Niger seront annoncées dans les prochaines semaines par les États-Unis, a déclaré aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Michael Langley, chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse. Washington a accepté à la mi-avril de retirer du pays ses plus de 1000 soldats et a annoncé envoyer une délégation à Niamey pour s'accorder sur les détails de ce retrait. Le général Michael Langley a par ailleurs évoqué le futur du partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à travers AFRICOM qu'il souhaite renforcer concernant la sécurité et la société civile. Les Togolais ont commencé à voter ce lundi pour élire députés et conseillers régionaux. Ce scrutin se tient après une réforme de la Constitution destinée, selon l'opposition, à maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir. Yacouba Ouédraogo.
113 députés à l'Assemblée nationale doivent être élus, mais aussi, pour la première fois, 179 conseillers régionaux qui, avec les conseillers municipaux, vont désigner le Sénat nouvellement créé. Ce double scrutin législatif et régional intervient après l'adoption d'une nouvelle constitution qui fait basculer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Désormais, le pouvoir réside entre les mains d'un président du Conseil des ministres, lequel sera le chef du parti majoritaire à l'Assemblée. Faure Gnassingbé est l'actuel président du parti majoritaire UNIR. L'opposition dénonce ce qu'elle qualifie de coup d'État institutionnel. Nous avons dénoncé l'état du système et comme les Togolais sont à l'écoute, ils feront le travail, a déclaré Jean-Pierre Fabre, leader du parti d'opposition ANC et candidat à un poste de député. Pour le parti au pouvoir, la réforme constitutionnelle rend les instances plus représentatives du Togo. Les ministres de la Justice et de la Sécurité ont mis en garde les auteurs de publications et de faux résultats. Les résultats doivent être annoncés dans les 6 jours suivant le vote.
Élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, sauf dans une partie de l'Est et de l'Ouest. Le point avec Eddy Isango.
Ces élections se sont déroulées de manière générale dans la paix et sans incident majeur, a déclaré à VOA Afrique le directeur de communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo. La centrale électorale a tant proclamé les résultats provisoires dans la soirée après le scrutin qui a commencé tard dans la capitale Kinshasa. L'élection de gouverneur n'aura pas lieu en Ituri et dans le Nord Kivu, les deux provinces de l'Est qui sont depuis plus de 3 ans sous état de siège. L'élection sénatoriale dans le Nord Kivu aura plutôt lieu le 26 mai, en même temps que dans la province de Maïndombe, une province troublée elle aussi par les affrontements des groupes armés ethniques. En Ituri, par contre, l'élection a été renvoyée au 6 mai après la mise à l'écart d'une liste sur laquelle s'est retrouvé les noms de l'ancien chef de guerre Thomas Lubanga. Dans les Kwilu et les Nord-Ubangi, les scrutins ne pourront avoir lieu qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales qui ont été annulées.
Au Tchad, le premier ministre Succès Masra a promis aujourd'hui, s'il est élu président dans une semaine, une place à ses côtés au président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui se voit, lui, élu dès le premier tour. Le scrutin d'ici même présente une configuration inédite dans ce pays d'Afrique centrale, voire sur le continent. Mahamat Déby, proclamé chef de l'État par l'armée il y a 3 ans, affronte le premier ministre qu'il a lui-même nommé le 1er janvier dernier, l'ex-opposant Succès Masra. Au moins 45 personnes sont mortes dans le centre du Kenya après qu'un barrage naturel a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. Alexandrine Ollognon nous en dit plus.
Pour l'instant, 45 corps ont été retrouvés. L'équipe sur le terrain est débordée, mais les recherches se poursuivent, a déclaré un officier supérieur de la police du comté de Nakuru. Dans la nuit de dimanche à lundi, les contreforts de terre du barrage d'Old Kijabe ont cédé, déversant les eaux du lac de retenue adjacent sur les maisons et routes situées en contrebas. Cette tragédie porte à plus de 120 morts, le bilan d'une saison des plus particulièrement meurtrières dans le pays, où le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations. Plusieurs incidents de ce type ont été recensés ces derniers jours. Samedi, le gouvernement avait rapporté que 76 personnes avaient perdu la vie depuis le début de la saison des pluies en mars et que plus de 130 000 personnes avaient été déplacées. Dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, les pluies saisonnières se combinent cette année au phénomène climatique El Niño. Outre une hausse des températures, El Niño provoque des sécheresses dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d'autres.
La compagnie aérienne Kenya Airways a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendait ses vols vers Kinshasa après l'arrestation et la détention illégale de 2 de ses employés en RDC. Depuis une dizaine de jours, elle avait demandé vendredi la libération de 2 de ses employés de son bureau de l'aéroport de Kinshasa, détenu depuis le 19 avril par les services de la détection militaire des activités antipatrie. Selon Kenya Airways, un tribunal militaire avait accepté la veille une demande de remise en liberté. Les autorités congolaises n'ont pas communiqué sur ces arrestations.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Proche-Orient, lors du Forum économique mondial à Riyad, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dit espérer que le Hamas accepte une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël d'arrêter l'offensive à Gaza en échange de la libération d'otages. M. Blinken a entamé en Arabie Saoudite sa 7e visite au Proche-Orient depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël. Nathalie Barge.
Antony Blinken a dit espérer que les dirigeants du mouvement islamiste palestinien prennent la bonne décision rapidement pour qu'il se produise un changement fondamental de la dynamique, selon ses propres termes. Lors d'un entretien avec le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, le secrétaire d'État américain a insisté pour que tous les efforts soient déployés afin de convaincre le Hamas d'accepter la proposition de cesser le feu immédiat qui est sur la table. À la veille d'un voyage en Israël, M. Blinken a réitéré l'opposition des États-Unis à une offensive israélienne sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. « Nous n'avons pas encore vu de plan qui nous permette de croire que les civils peuvent être protégés efficacement », a-t-il déclaré à Riyad. Le chef de la diplomatie américaine a estimé que les efforts consentis au plan diplomatique ont empêché jusqu'ici une escalade ou extension du conflit dans la région. Il a par ailleurs précisé que l'accord de sécurité pour la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite est sur le point d'aboutir. Devant ses homologues du Conseil de coopération du Golfe réunis à Riyad, M. Blinken a aussi plaidé en faveur d'une défense intégrée des pays de la région face à l'Iran, qui a récemment attaqué Israël avec des drones et des missiles.
Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en visite à Kiev, a assuré aujourd'hui qu'il n'était pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte face à la Russie, malgré les récents revers de son armée et sur le front. Davantage d'aide est en route, a-t-il par ailleurs déclaré lors d'une conférence de presse. Le président de l'Université de Columbia a exhorté aujourd'hui les manifestants pro-palestiniens qui campent sur le campus depuis 2 semaines à se disperser après que les discussions ont échoué entre les protestataires et les dirigeants de la prestigieuse faculté de l'État de New York. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Michel Joseph.
La Tunisie va bénéficier d'un prêt d'1,2 milliard de dollars du fonds islamique ITFC. Le financement sera destiné principalement aux entreprises publiques du pays qui sont lourdement endettées, selon le ministère tunisien de l'économie. L'aide accordée à la Tunisie intervient dans une période où le pays nord-africain est secoué par une profonde crise économique et financière. La Tunisie est lourdement endettée à hauteur de 80% de son PIB. La compagnie aérienne Canyon Airways a annoncé lundi la suspension de ses vols vers Kinshasa en raison de ce qu'elle appelle une détention illégale de deux de ses employés en République démocratique du Congo depuis une dizaine de jours. Canyon Airways a affirmé vendredi que la raison de leur arrestation était l'absence de documents douaniers concernant une cargaison de valeur qui devait être transportée sur un vol le 12 avril 2024. Le patron de Tesla, Elon Musk, a quitté lundi Pékin après une visite durant laquelle le constructeur automobile américain a obtenu le feu vert des autorités chinoises en matière de sécurité des données. L'Association chinoise des constructeurs automobiles avait indiqué qu'elle testait des véhicules depuis novembre 2023 afin de vérifier comment ils collectaient et traitaient les données. Malgré la forte concurrence d'entreprises chinoises, les voitures Tesla figurent parmi les véhicules électriques les plus vendus en Chine. La Chine est le plus gros marché automobile mondial.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Dénouement des demi-finales des matchs interclubs de la CAF.
Oui, après le 0-0 au Caire, le Zamalek a réalisé une performance exceptionnelle en allant battre les gagnants de Dreams FC chez eux, 3-0. Le 12 mai prochain, pour la finale aller, le club égyptien va affronter la Renaissance sportive de Berkane pour le moment, qui comme à l'aller n'a pas pu jouer hier contre le tenant du titre, l'USM Alger. Pour rappel, les Algériens contestent le maillot que porte le club de Berkane, sur lequel est dessinée la carte du Maroc incluant le Sahara occidental. La CAF avait déjà tranché lors du premier match, donnant une victoire 3-0 sur tapis vert à la Renaissance sportive de Berkane.
En Ligue des champions, Al Ahly du Caire s'est donné l'occasion de défendre son titre.
Nette victoire 3-0 des Égyptiens face au tout-puissant Mazembe qui n'est pas prêt d'oublier cette débâcle, d'où l'amertume de son entraîneur, Lamine Diaye, déçu du comportement des arbitres du match.
Ce match-là ne mérite pas de finir à 3-0. Déçu, parce que, vous savez, en Afrique, je pense, si on veut avancer vraiment, il faudra que les arbitres soient sérieux. Parce que dès le début du match, on a vu qu'il arbitrait que dans un sens. Et ça, vous savez, nous sommes des êtres humains. Ça décourage, ça déconcentre. Je pense qu'il a joué un rôle très négatif dans ce match-là. Et Ahly n'a pas besoin de ça.
Lamine Diaye, entraîneur du tout-puissant Mazembe, en finale à l'Ali du Caire, va croiser l'espérance de Tunis qui a éliminé les Mamelodi Sundowns 1-0 à Pretoria.
Basketball avec les playoffs ici en NBA.
Minnesota est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de conférence grâce à son coup de balai sur Phoenix achevé hier 4-0. Les Wolves ont fini le travail contre les Suns 122-116 pour franchir le premier tour pour la deuxième fois seulement en 35 ans d'existence. Les Los Angeles Clippers, eux, ont laissé fondre une avance de 31 points et ont failli être humiliés par la plus grande remontée de l'histoire des playoffs avant de s'imposer dans une fin de match brûlante face à Dallas 116-111 pour égaliser à 2-2 et reprendre l'avantage du terrain. De leur côté, les New York Knicks ont remporté un nouveau match dingue face à leurs rivaux de la côte est de Philadelphie, 97-92 pour mener 3-1. Joel Embiid a plongé dans le dernier quart-temps un seul point sur 27 au total. Enfin, Indiana a fait un pas de plus vers une première série victorieuse en play-off depuis 2014 grâce à son succès sur Milwaukee 126-113 qui lui permet de mener 3-1.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui et sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Durant tout ce mois d'avril, les Nigériens commémorent l'anniversaire de la mort de l'ancien président Ibrahim Barré Maina Sara, abattu par des éléments de sa garde en 1999. 25 ans après, sa famille et ses amis qui réclament toujours justice espèrent l'ouverture d'une enquête par les autorités militaires actuellement au pouvoir à Niamey. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Mobilisé depuis toutes ces années pour que lumière soit faite, la famille et les amis du président de la 4e République du Niger gardent toujours espoir.
La question principale qu'il faut se poser aujourd'hui pendant 25 ans, qui a peur de la manifestation de la vérité?
Idi Ango Omar, ami et ancien ministre sous le régime du président Ibrahim Barré Maina Sara.
La conclusion, ma propre conclusion, il n'y a aucune volonté au niveau des hommes qui nous ont gouvernés de 25 ans aujourd'hui de vouloir faire, en tout cas manifester la vérité. Ça veut dire qu'il y a des complicités cachées. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que ce moment précis, au moment où toute sa famille, en tout cas sa famille militaire, accède au pouvoir, pour qu'une information puisse être ouverte, qu'une enquête puisse être menée, pendant encore que certains vivants sont là.
Justice, mais surtout vérité, c'est ce qu'attend la famille du défunt général, disait Dr Clémence Aïssa, épouse du défunt président il y a quelques années.
Au début, quand on a voulu faire croire que c'était un accident, nous avions été obligés de démontrer par des expertises balistiques qu'il avait été volontairement tué dans le dos. Vous vous rendez compte d'où on venait? Un accident malheureux. Ensuite, on a dit c'est une révolution de palais.
À l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de sa mort cette année, certains de ses compagnons sont revenus sur les valeurs qui étaient celles défendues par le général et qui sont aujourd'hui mises en avant depuis le coup d'état militaire. Abdrahmane Seydou, colonel à la retraite et compagnon d'armes du général Ibrahim Barré Maina Sara.
Cette souveraineté dont on parle, vous ne pouvez pas défendre la souveraineté si vous n'avez pas le sens de l'honneur, de la dignité et le sens du travail et du travail bien fait. Or, tout ceci, c'était des visions, c'était des chantiers d'Ibrahim.
Des qualités que reconnaissent les opposants à l'époque à son régime, comme Issoufou Tamboura.
Et moi, j'ai eu à poser la question une fois, donc au président Tandja. Il a confirmé que c'est un patriote. Et n'est-ce pas qu'il a réhabilité sa mémoire en donnant un nom à un rond-point important de Niamey et à une avenue.
Du fait d'une loi d'amnistie accordée aux auteurs des événements du 9 avril 1999, toutes les procédures judiciaires internes menées par la famille du défunt président ont été infructueuses. Elle a assigné l'État du Niger devant la Cour de justice de la CEDEAO en 2013. Celle-ci a reconnu la violation du droit à la vie du général Barré et ordonné l'indemnisation de sa famille et un accès à la justice. Aucune de ces décisions n'a encore été exécutée. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Martha Ngoy était responsable juridique de l'agence publique sud-africaine Passenger Rail Agency lorsqu'elle a dénoncé des contrats gouvernementaux illégaux d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Mais au lieu d'être honorée en tant que dénonciatrice de la corruption, elle a été licenciée par son employeur et a dû mener une longue et coûteuse bataille juridique pour retrouver son emploi. L'expérience de Martha met en lumière les difficultés rencontrées par les lanceurs d'alerte en Afrique du Sud. Un reportage de Hissan Afidji, le récit est de Dili Diko.
Vous savez, psychologiquement aussi, c'est un lourd tribut. Pas seulement pour moi, mais pour ma fille aussi et la famille. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une structure pour me soutenir.
Alors que Martha poursuit son combat judiciaire pour retrouver son emploi, elle a rejoint The Whistleblower House, une nouvelle organisation de la société civile qui offre soutien et conseils aux lanceurs d'alerte en Afrique du Sud. Ces derniers payent parfois le prix fort dans la lutte contre la corruption. En 2021, Babita Deokaran, fonctionnaire gouvernemental, a été assassinée devant son domicile après avoir découvert des cas de corruption au sein du département provincial de la santé. Le journaliste Jeff Weeks a passé des mois à enquêter sur les circonstances entourant son assassinat.
Elle rentrait chez elle après avoir déposé sa fille à l'école et lorsqu'elle a ralenti pour entrer dans son allée, un autre véhicule s'est arrêté à côté et trois hommes ont tiré sur sa voiture et l'ont tué d'une dizaine de balles. Ce que nous ne savions pas à l'époque et que nous n'avons découvert que plusieurs mois plus tard, c'est que dans les semaines qui ont précédé son assassinat, elle a découvert des paiements anormaux et les a signalés à ses supérieurs. Elle demandait une enquête urgente et l'arrêt des paiements. Quelques jours avant d'être tuée, elle a envoyé un message à son patron pour lui dire que ces individus pourraient les avoir dans leur collimateur s'ils mettaient fin à leur paiement et que leur vie pourrait être en danger. Et ce message s'est avéré assez prémonitoire puisqu'elle a été tuée moins d'une semaine plus tard.
Cynthia Stimple est une autre lanceuse d'alerte qui a dénoncé la corruption dans les compagnies aériennes publiques d'Afrique du Sud. Elle affirme que les dénonciateurs sont des acteurs fondamentaux de la lutte contre la corruption.
Mon opinion est que les lanceurs d'alerte sont vraiment importants dans la lutte contre la corruption parce que ce sont eux qui mettent en lumière, exposent et parlent de la fraude qui se produit sur le lieu du travail, de la corruption. Et ils sont donc le premier rempart et nous devons vraiment les prendre au sérieux plutôt que de faire d'eux des victimes.
Le gouvernement sud-africain a reconnu l'importance de la protection des lanceurs d'alerte. Il s'est engagé à revoir les lois les concernant dans le cadre de sa stratégie nationale de lutte contre la corruption. Uliesa Radulovic de l'université de Johannesburg étudie le sort des lanceurs d'alerte. Il affirme que des changements sont nécessaires pour renforcer la législation relative à leur protection.
Je pense qu'il est essentiel de réviser la législation afin d'élargir la protection des lanceurs d'alerte et de punir ceux qui exercent des représailles à leur encontre. La deuxième chose cruciale serait de créer une relation plus forte entre l'État et la société civile et une institution publique indépendante pourrait apporter une solution à ce problème.
En fin de compte, il est important que les lanceurs d'alerte disent la vérité au pouvoir. Si nous voulons vraiment que les choses changent dans ce pays et si nous voulons laisser un héritage et un avenir à nos enfants, il faut que les gens parlent.
Les lanceurs d'alerte restent une ressource inestimable dans la lutte contre la corruption et la protection de la démocratie. Mais ceux auxquels nous avons parlé estiment qu'ils ne reçoivent pas le soutien et la protection dont ils ont désespérément besoin.
Au moins 16 pays africains, dont l'Afrique du Sud, organiseront des élections au cours des derniers mois de 2024. Les électeurs qui consultent Internet pour obtenir des informations politiques risquent d'être exposés à la désinformation et aux fausses informations, mais une nouvelle organisation d'éthique numérique vise à aider les journalistes et les militants à identifier les contenus faux et trompeurs afin qu'ils puissent éduquer le public. Zahi Kassim en parle depuis Johannesburg, le récit avec Joselle Morissin. In the upcoming
general elections of 2026. À première vue, cette vidéo du président zambien Hakainde Hichilema annonçant qu'il ne se présentera pas aux prochaines élections semble authentique, mais elle est fausse. Ces journalistes de Johannesburg apprennent à faire la différence avec l'aide d'une organisation à but non lucratif appelée Campaign on Digital Ethics, campagne pour l'éthique numérique ou CODE. Kavisha Pillay est directrice et fondatrice de CODE.
Nous veillons à ce que les gens accèdent à des informations sûres et non nuisibles, à ce que la technologie que nous utilisons ne cause pas d'autres préjudices à notre société.
Africa Check, l'une des principales organisations indépendantes de vérification des faits du continent, collabore avec CODE dans ce projet. Keegan Leach, un chercheur de l'organisation, indique que le personnel d'Africa Check encourage les gens à lui envoyer du contenu suspect. Il collabore avec CODE pour enseigner au public comment identifier le faux contenu des médias sociaux.
Il est utile d'avoir non seulement quelqu'un pour intervenir et vérifier ce type d'information, mais aussi de pouvoir partager avec tout le monde des conseils, des astuces et des techniques pour arrêter cette propagation.
Manisiga Monet, activiste communautaire, sera en état d'alerte dans les jours précédant les élections du 29 mai en Afrique du Sud, à l'affût de tout contenu frauduleux qui pourrait affecter son quartier.
Je pense que nous entrons dans une ère où la vérité est de plus en plus déformée. Et nous avons besoin de ce genre d'initiative pour que les gens gardent les pieds sur terre et restent responsables.
La Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud a annoncé qu'elle travaillerait avec Google, Meta et TikTok pour aider à sauvegarder l'intégrité du processus électoral.
Les blagues du président américain Joe Biden ont été bien accueillies par les participants au dîner des correspondants de la Maison-Blanche à Washington. Rival politique, Donald Trump a critiqué l'événement alors qu'il se prépare à une nouvelle série d'activités de campagne et de comparution devant les tribunaux cette semaine. Suivons le reportage de Véronica Balderas-Iglesias, relaté par Gabi Dorsil.
L'élection de 2024 bat son plein. Et oui, l'âge est un problème. Je suis un adulte qui se présente contre un enfant de 6 ans.
Blagues sur sa propre personne et sur son rival politique, applaudissements et rires de journalistes, célébrités et hommes politiques réunis à la circonstance, voilà ce qui caractérise ce rendez-vous annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Pour la première fois samedi soir, le président a également fait référence au défi juridique de Donald Trump.
J'ai eu une belle période depuis le discours sur l'état de l'Union, mais Donald a eu quelques jours difficiles ces derniers temps. On pourrait parler de temps orageux. Que se passe-t-il?
Avec cette épithète « orageux » en anglais « stormy », pensez à Stormy Daniels, Joe Biden faisait référence au procès en cours à New York, où Trump doit répondre de 34 chefs d'accusation pour falsification de documents comptables. Les analystes ne pensent pas que la plaisanterie de samedi indique un changement dans la stratégie de la campagne de Biden.
Il l'a fait de manière douce, avec humour, et je pense qu'il ne le refera peut-être pas. Trump a accusé la Maison-Blanche d'avoir tout orchestré pour éliminer un rival politique. Biden ne veut pas renforcer ce narratif.
Tôt dans la journée de dimanche, Donald Trump s'est exprimé sur le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Il a publié sur sa plateforme Truth Social que l'événement était vraiment mauvais et que Biden était un désastre absolu. Trump se préparait pour des événements de campagne dans le Michigan et le Wisconsin ce mercredi 1er mai. Vendredi, il a réaffirmé qu'il était prêt à débattre avec Joe Biden dès cette semaine, après que le président démocrate a déclaré à un animateur de radio qu'il serait prêt pour un tel débat dans le courant de l'année.
Je suis prêt. Je veux et je le peux. Et s'il le veut, je le ferai lundi soir, mardi soir ou mercredi soir. Nous serons dans le Michigan, un État qu'il a détruit à cause de l'industrie automobile.
Pour faire pencher les électeurs en faveur de l'un ou l'autre des candidats, le moment choisi pour les débats serait crucial, selon le professeur Eric Nisbet.
Historiquement, aux États-Unis, la majorité du public ne s'intéresse pas aux élections avant septembre, quand les partis ont confirmé leurs candidats pendant l'été.
Mais 2024 est une année différente. Une chose est certaine, du moins à court terme, c'est que Trump devra jongler entre sa campagne électorale et son procès à Manhattan. Quant à Joe Biden, il devra continuer à trouver le bon équilibre entre la campagne et ses fonctions de président.
Salut à tous, c'est Yacouba Ouédraogo. Vous aimez le sport? Vous voulez comprendre davantage chaque discipline? Vous voulez en discuter? Retrouvez-moi chaque lundi en direct à partir de 19h05, temps universel, dans Sporama sur VOA Afrique. Pour participer à l'émission, c'est très simple. Laissez-nous vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.